semi-finale après aux États-Unis.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Fidèles auditeurs de VOA Afrique et bienvenue dans l'Amérique et vous. Eric Manilakiza en votre compagnie, Michel Claire-Joseph assure la mise en onde. Ce soir, nous revisitons certains événements clés qui ont marqué l'année dernière et qui ont sans doute eu un impact sur l'Afrique. Il s'agit notamment des faits divers connus ici aux États-Unis. Nous les décortiquons dans un instant avec nos invités. Au pays de la Teranga, Ibrahima Khan, bonsoir.
Bonsoir.
Tous dans le même bateau, n'est-ce pas?
Oui, on espère que l'année qui commence va être dans tout point meilleure que celle qui s'achève.
Merci d'être là. À Atlanta, en Géorgie, se trouve un des fils du pays des hommes intègres. Ismaël Diallo, bonsoir.
Bonsoir, comment va?
Ça va très bien. Prêt à défendre l'honneur, la patrie ou la mort, c'est ça ou c'est un vieux slogan?
Tout le temps et à jamais, quels que soient les hauts et les bas.
Dans le Minnesota, à Minneapolis, Shérif Keïta, bonsoir.
Bonsoir Eric, c'est le pays des 10 000 lacs.
C'est ça, merci de partager dans cette édition les connaissances puisées au pays mandingue. Vous symbolisez, oui. Paraît-il.
Absolument, absolument. On dit que le mandé est une pirogue qui peut tanguer mais qui ne tangue jamais.
Absolument, absolument.
Bienvenue à vous tous et meilleurs voeux, encore une fois pour 2021.
Merci Eric.
Merci beaucoup Eric.
Shérif.
Oui.
Je ne peux pas respirer, c'est la dernière phrase prononcée par George Floyd avant sa mort à Minneapolis. La question raciale a ressurgi avec l'indignation qu'on a vue à travers les États-Unis. Minneapolis est devenu le point central du monde.
Absolument. Pour moi qui ai habité dans le sud des États-Unis pendant longtemps, en déménageant au Minnesota en 85, et depuis lors j'avais toujours pensé vraiment que la question raciale ne se posait pas avec beaucoup d'acuité dans cet état-là. Parce que moi j'habite dans une petite ville, c'est une ville universitaire. Mais il a fallu cet incident tragique cet été pour me faire voir la réalité à moi-même. Et vous n'allez pas être surpris si je vous dis que le magasin où cet incident, cet assassinat s'est produit, était là où j'allais peut-être une fois par mois pour acheter ma viande halal. Donc je voyageais de ma petite ville pour aller acheter ma viande halal là-bas. Alors vous imaginez ma surprise quand j'ai vu que c'était devant ce magasin que George Floyd a été tué froidement. Et avec le monde entier qui est un spectateur. Voilà. Et donc ça m'a fait comprendre vraiment que si au Minnesota cela pouvait se passer, alors ça veut dire que l'Amérique n'a pas encore fait la paix avec ses démons. Hein, les démons du racisme que Trump en fait a réveillé, en fait, c'est ça. Autant Trump a foulé aux pieds toutes les institutions supposées démocratiques qui jusqu'alors avaient reposé sur un certain consensus de l'honneur, voyez, de honor code, et comme les Américains aiment le dire. Et Trump, en venant, a bousculé tout cela, toutes ces institutions, et en même temps, il a libéré tous les démons qui avaient vraiment torturé l'Amérique et qu'on croyait avoir été éliminés pour toujours. Et donc le Minnesota s'est retrouvé sous les feux de la rampe. C'est le monde entier qui parlait de Minneapolis. Et bien sûr, parlant des élections, la colère donc que cela a déclenché, aussi bien pour les minorités que pour les Noirs, pour les Blancs et les autres races, qui en ce moment-là ont compris en fait que cette menace était une menace collective et qu'il fallait se mobiliser. Je crois que tout ça en aval a eu un impact sur les élections et sur les résultats des élections. Donc le Minnesota en fait a été, à mon avis, un seuil important dans le changement et je l'espère dans le retour à la normale aux États-Unis.
Mais ce n'est pas le président Trump qui est irresponsable ou à l'origine du racisme aux États-Unis.
Non, il n'est pas à l'origine, mais il a libéré, il a enlevé le bâillon à beaucoup de gens qu'on croyait avoir été réduits au silence ou plutôt qu'on croyait avoir éliminé du système, avec sa notion du politiquement correct, le fait qu'il fallait, il y avait trop de politiquement correct, voyez. Et à ce moment-là, les racistes de tout Acadie se sont mis à parler et à s'exposer au vu et au su de tout le monde. Donc, c'est comme ça. Trump a contribué, il faut le dire. Il a contribué. Sa responsabilité ne peut pas être niée.
Il a contribué, il a peut-être aidé, disons, à exhumer ce problème qu'on ne voyait pas, mais qui existe réellement et maintenant qu'il faut gérer.
Mais oui, absolument, absolument, absolument. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'assassinat de George Floyd a été un moment tellement fort que beaucoup d'institutions, à tous les niveaux, ont commencé à se remettre en question, vraiment. Dans les universités, et où on pensait en général que les mentalités étaient libérales, se sont remises en question, se sont demandées dans quelle mesure, elles aussi, elles contribuaient à cette situation de racisme et de ségrégation. Voyez. Donc, ça ne s'est pas manifesté seulement sur le plan politique. Les répercussions, les ramifications continuent à se déplier dans le système.
Ismaël Diallo, l'émotion a dépassé les frontières américaines.
Oui, le cas de George Floyd est devenu un cas mondial. Quand on voit déjà à Paris, en Italie, à Berlin et ailleurs, brandir des posters de George Floyd, de surcroît un noir, et manifester pour réclamer des droits et la fin des racismes, c'est, pourrait-on dire, le monde à l'envers, surtout dans un pays comme la France, où on refuse obstinément d'accepter qu'il y a du racisme en France.
Oui.
Il y a une ministre d'origine capverdienne qui a été rabrouée par des soi-disant intellectuels français, des penseurs français, parce qu'elle s'est permise de dire que le président Macron avait raison de dire qu'il y a dans le monde actuel un privilège blanc. Ce qui est une vérité surannée, c'est une vérité qui date de 400-500 ans. Rien de nouveau à ça, mais il a osé le dire, il a osé le dire, ce que beaucoup de blancs n'acceptent pas. Mais c'est une bonne chose. Et, que, vous savez, c'est pas bien de dire à quelque chose malheur est bon, mais le cas de George Floyd a amené tout le monde à abattre les masques et à regarder la réalité en face. En vérité, d'ailleurs, ce sont les noirs qui, eux, sont les plus naïfs. Ce n'est pas les blancs, les asiatiques, les arabes ou les autres. C'est les Noirs qui continuent de croire en la fraternité innocente entre êtres humains.
Monsieur Khan, les pays africains ont même milité pour une résolution onusienne condamnant le racisme et les violences policières.
Tout à fait. D'abord, pour la première fois, l'Union africaine a officiellement réagi en condamnant le meurtre de M. Floyd, mais en insistant aussi sur le caractère structurel du racisme contre les Noirs. Parce que, au-delà du fait que l'affaire Floyd a révélé, a eu une onde de choc un peu partout dans le monde, je pense qu'il y a eu deux choses importantes. Un, montrer que le racisme à l'égard des Noirs est structurel. Et deuxièmement, forcer pratiquement les États, les institutions internationales à aussi saisir les actions qui doivent être prises pour que cette discrimination structurelle cesse. Vous savez, cette discrimination, elle va même au-delà de ce qu'on parle. Prenez l'Amérique latine, il y a énormément de noirs. Dans un pays comme l'Argentine, on a appris pendant cette période-là qu'il n'y avait même pas une dizaine de fonctionnaires supérieurs noirs dans ce pays, alors que ce pays a au moins plus d'un tiers de sa population est noire. Alors, je passe sur l'Europe avec tout ce qu'il y a de difficultés à même montrer que les Noirs appartiennent aux sociétés européennes. Ils ne sont pas présents dans les émissions de télévision, on les voit. C'est-à-dire que c'est même une minorité invisible dans l'essentiel des sociétés. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut insister sur le travail que les Nations Unies ont mené en essayant de montrer que non seulement les Noirs, cette discrimination des Noirs doit cesser, mais qu'il faut mener des actions concrètes pour cesser cette discrimination. Vous connaissez la décision qui a été prise en 1915 par les Nations Unies, qui a exclu un agenda de 10 ans pour que dans tous les pays où il existe des Noirs, on puisse œuvrer pour leur intégration dans les sociétés. C'est maintenant qu'il faut insister sur ces actions-là à mener et vraiment forcer l'humanité à considérer que le fait d'être noir n'est pas un mal. C'est au contraire une façon de montrer que nous sommes tous de la famille humaine et que cette famille humaine-là, elle est unifiée et les gens qui la constituent sont solidaires les uns envers les autres. Et c'est maintenant qu'il faut prouver ça. Aux États-Unis, en Europe, en Australie, dans tous les endroits où les Noirs sont pratiquement considérés comme des sous-humains. Je pense particulièrement au Moyen-Orient, où aux Noirs, dans le pays du Golfe, de manière générale au Moyen-Orient, est vraiment acceptable en ce 21e siècle-là. On pense toujours aux États-Unis et à ce qui s'y passe, mais c'était un combat sur toute la planète et vous verrez que vraiment le fait d'être noir sur cette terre-là pose toujours problème. Et un dernier point que j'aimerais souligner pour m'en féliciter, c'est le fait que des institutions comme la Banque mondiale commencent maintenant, parce que les Noirs qui y sont commencent à se mobiliser, commencent à s'organiser, ouvrent les yeux pour constater que non, même dans son staff, il y a des Noirs qui doivent mériter les postes comme les autres et qui doivent vraiment être traités de manière égale avec les autres communautés qui existent au niveau de cette institution. Donc vous voyez que c'est vraiment très profond, c'est vraiment très 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 profond et il faut que des actions idoines, ciblées soient menées pour mettre un terme à cette situation.
Ismaël Diallo, en Afrique, c'est plutôt monnaie courante, les Noirs qui excluent les Noirs, mais l'action menée à Genève par les Africains est une initiative rare de leur part quand il s'agit d'un pays africain. La xénophobie qu'on voit partout.
Vous savez, je ne veux pas qu'on pense que j'aime me flageller ou flageller les miens. Mais très honnêtement, aujourd'hui, après tout ce que le monde a vécu et tout ce que l'homme, H majuscule, tout ce que l'homme noir a vécu, le retard, le problème, les handicaps aujourd'hui sont de notre part. Pas de la part des autres, pas par la faute des autres. C'est à nous aujourd'hui qu'il appartient de nous remettre debout, de reconquérir l'estime de nous-mêmes et d'apprendre ou de réapprendre à aimer et à estimer ceux qui nous ressemblent. Parce que toutes les intrusions venues de loin, comme on dit au Burkina, nous ont appris, nous ont convaincus à nous haïr nous-mêmes et à haïr ceux qui nous ressemblent. On ne le reconnaîtra pas, bien entendu, si vous le disiez à des jeunes Africains, ils vous diront, bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais ça commence par là. Le problème, c'est vraiment nous, c'est à nous, ce n'est pas ailleurs. Et c'est à nous de changer, si on veut que le monde change de regard vis-à-vis du noir.
Chérif
Oui, ben, je crois que je suis d'accord avec ce que Khan et Diallo ont dit. Venant du point de vue littéraire, depuis les années 60, vous vous souvenez d'un roman d'un Malien, un auteur malien maintenant décédé, qui s'appelle Yambo Wologem, qui a écrit le roman Devoir de violence, qui a fait beaucoup de bruit vers la fin des années 60. Pour la première fois, un écrivain africain osait dire que les problèmes de l'Afrique, le colonialisme, en fait, n'est pas forcément venu avec les Blancs, que l'Afrique elle-même est la source de ses propres problèmes, et que les petites gens, les gens ordinaires, ont été de tout temps opprimés par les puissants, et qu'il était grand temps que l'Afrique arrête, disons, d'imputer ses problèmes aux autres, et que l'Afrique apprenne à se responsabiliser, parce que ce n'est qu'en s'acceptant, en acceptant ses propres responsabilités, que l'Afrique pourra devenir, en fait, finalement majeure. Je crois que c'est ça le message. Il faut que l'Afrique arrive à se responsabiliser et pour cela, reconnaître ses forces et ses faiblesses et essayer de trouver les moyens idoines pour y remédier. J'espère que 2021 sera peut-être l'année de cette prise de conscience. Et surtout que nous avons une jeunesse très dynamique. Une jeunesse qui n'est pas, je dirais, obérée par toutes ces tares, toutes ces, je dirais, une jeunesse qui a du ressort. Voilà. Et si nous pouvons conjuguer nos efforts, peut-être que l'Afrique aura un avenir meilleur et l'Afrique arrivera à se libérer.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Monsieur Kahn, vous avez parlé de l'Union africaine, mais quand on voit les principes de démocratie foulés aux pieds, les troisièmes mandats, les violations des droits de l'homme qu'on voit massivement dans ces pays et les réfugiés qui sont générés par ces pays, est-ce que au niveau de l'Union africaine, il y a cette prise de conscience pour se regarder dans le miroir et essayer de mettre en place des institutions qui fonctionnent et dans le respect de tous?
Que vous avez évoqué a commencé dans les années 90. Avant, on n'avait pas
mis en place les mécanismes, les systèmes, les stratégies pour faire face à ces situations. Et donc, partant de la situation qu'on a connue avant et de ce que l'on connaît aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des progrès. Bien sûr, on doit nécessairement mieux faire, mais il y a des progrès parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les voix des États et des dirigeants qui sont écoutés, on écoute la société civile, on écoute les autres acteurs du continent et on arrive petit à petit à créer d'autres mécanismes, à créer d'autres systèmes qui peuvent permettre de régler les problèmes dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la libre circulation des personnes, on a un protocole sur le passeport africain qui permet aux Africains de se sentir unis et liés, et on a des actions qui sont mises en place pour que les Africains se connaissent mieux, se parlent mieux sur les questions essentielles. Et c'est ça qu'il faut, me semble-t-il, dans cette période de l'histoire africaine, pour amener les populations. Parce que en Afrique du Sud, ce qui se passe là-bas, c'est que les Sud-Africains ne connaissaient pas le reste du continent à cause de l'apartheid.
Ça, c'est vrai.
Les Africains sont allés en Afrique du Sud et ça a créé des problèmes sans que le gouvernement sud-africain ne prenne conscience pour essayer de lui trouver un problème. Il a fallu l'action de l'Union africaine, l'action des autres acteurs pour amener le gouvernement africain maintenant à prendre conscience de cela et à commencer à agir. Ils viennent de changer leur politique de migration, ils viennent de prendre un certain nombre d'acquis. Je pense s'ils sont bien appliqués, bien menés par les dirigeants africains, pourraient faire changer la situation que l'on a constatée ces dernières années entre les Sud-Africains et le reste du continent.
Sérif, l'Afrique, justement, c'est un pays que vous connaissez très bien.
Oui. Ce que Diallo a dit est vrai. En fait, le commun des Sud-Africains ne connaissait pas le reste de l'Afrique. Parce que sous l'apartheid, pendant l'apartheid, et même avant, n'est-ce pas, on a construit ce mur autour des Sud-Africains pour les isoler du reste du monde. Et quand, donc, subitement, enfin, en 1994, il y a eu des élections démocratiques, le reste de l'Afrique s'est précipité vers ce pays. Et, comme Diallo l'a dit, les autochtones qui n'avaient pas eu l'occasion, disons, de connaître la vie de réfugiés, eux ont mal vu cet afflux donc d'étrangers, de personnes qui considéraient comme étrangères, et étant encore des Africains, donc ils n'étaient pas du tout préparés à les recevoir. Et le gouvernement de l'ANC, malheureusement, n'avait pas mis à temps une politique en place pour pouvoir adoucir la transition et pour pouvoir intégrer ces populations qui venaient avec un savoir-faire. C'est ça aussi. Parce que les Africains qui venaient en Afrique du Sud venaient avec un savoir-faire et une expérience qui manquait aux populations noires locales. D'où une certaine peur qui a alimenté la xénophobie, vous voyez. Donc, comme Diallo l'a dit, je crois que les choses vont...
C'est M. Khan, c'est Khan qui l'a dit.
Ah, c'est Khan plutôt, c'est Khan qui l'a dit, absolument, je m'excuse. Voilà. Non, mais je crois qu'effectivement, comme Khan l'a dit, l'Union africaine a eu à jouer un rôle positif dans ce sens-là. Et ça donne de l'espoir, ça donne de l'espoir.
Ismaël Diallo, je vais terminer par vous sur cette question. Ibrahim Khan a parlé d'une organisation jeune, mais c'est une organisation qui est dirigée par des intérêts des hommes qui connaissent l'histoire. Est-ce que quand on regarde la gestion de nos pays, comment vous expliquez l'incapacité de l'Union africaine à régler ces problèmes? Est-ce que vous situez l'incapacité à sa jeunesse comme organisation?
Je la situe plutôt dans le fait que c'est une organisation gouvernementale, intergouvernementale, tout comme les Nations Unies, l'Union européenne, la CEDEAO, et autres. Alors, qui fait donc qu'il y a des limites d'action. Là où le bas blesse, c'est que les partis politiques qui ne sont pas au pouvoir à travers l'Afrique, les intellectuels africains, la société civile africaine ne font pas assez leur part de contribution. Je sais que nous quatre qui parlons en ce moment sommes des panafricanistes. Mais chaque jour qui passe, chaque semestre, chaque année qui passe, je vois s'éloigner la possibilité d'une union quelconque de l'Afrique. Parce que justement, ces trois entités qui sont les partis politiques, les intellectuels et la société civile ne jouent pas leur rôle. Il ne faut pas attendre des gouvernements qu'ils s'activent et qu'ils précipitent l'union, même entre deux pays voisins, a fortiori une sous-région ou toute la région africaine. Et c'est là notre problème, hélas.
Ibrahim Khan, est-ce que vous pensez que l'Union africaine finira par régler définitivement la question des troisièmes mandats qui sont à chaque fois à l'origine des problèmes, de l'insécurité, des violences?
Mais nécessairement, vous savez, à un moment donné, elle était incapable de régler les problèmes de dictature, les problèmes qui sont, enfin, qui sont liés au régime politique des années 70. Parlant des troisième mandats, vous voyez déjà qu'en Afrique de l'Ouest, lors du dernier sommet de la CEDEAO, le président du Nigeria, qui a officiellement déclaré qu'il ne demanderait pas un troisième mandat parce que la conscience de son pays ne le lui permet pas, a demandé à ce que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet pour que la CEDEAO puisse, parmi les principes de convergence constitutionnelle dont elle s'est dotée, puisse inscrire cette question de la limitation des mandats dans le cadre communautaire ouest-africain. Donc, ça ne sera pas aussi rapide, mais ça prendra le temps que ça prendra. Et on voit déjà l'exemple, il y a un président qui est parti voter, mais en refusant de demander un troisième mandat, c'était le président du Niger. Donc, vous voyez que déjà des exemples commencent à prendre à l'horizon, et cela est très encourageant. Et je dirais même cette question du troisième mandat à y regarder de près ne concerne que les États francophones. Dans nombre d'États francophones, vous avez vu que cette question ne se pose pas. Donc, il ne faut pas penser que la question du troisième mandat est pratiquement sur tout le continent. C'est vraiment localisé dans les pays francophones de façon générale et avec des leaders mais qui ont une conception non seulement archaïque mais coloniale du pouvoir. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on est confronté à ce genre de situation. C'est sûr que quand on aura un renouvellement de la classe politique, nécessairement ces questions seront réglées parce que l'Afrique ne peut pas être à la traîne du reste du monde quand il s'agit des questions de gouvernance et quand il s'agit des questions de démocratie où on appartient à la même communauté, on appartient à la même planète et on devrait donc tirer des leçons.
Chérif, la limite des mandats aux États-Unis, c'est quand même un modèle. Il y a d'autres pays aussi qui le respectent, mais c'est quelque chose de très important pour une stabilité d'une démocratie.
Oui, absolument. Comme Eskan le disait, en fait, ce problème, il semble être presque endémique dans les pays francophones. Je me demande dans quelle mesure la France-Afrique a une part de responsabilité dans tout ça. Hein, cette relation entre les républiques africaines et l'ancienne métropole, puis les bisbilles entre les responsables des deux côtés, ne contribuent pas à cet esprit donc, de non-respect de la Constitution et des constitutions.
Diallo, est-ce que à force de vouloir indexer la France, est-ce que ce n'est pas fuir nos responsabilités en tant qu'Africains?
C'est fuir nos responsabilités et c'est vouloir une chose de son contraire. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens qui disent à l'armée française de s'en aller. Que ferait-il demain si l'armée française partait aujourd'hui? Que ferait-il? Ils allaient avoir le choix entre fuir leur propre pays, laissant derrière leurs parents, leurs amis, leurs compatriotes, ou rester et être sous la férule des terroristes, ou quoi d'autre? Je ne sais pas ce qu'ils feraient. Alors, il faut savoir raison garder et prendre nos responsabilités. Il est temps que nous grandissions et que nous nous prenions en charge. Il faut avoir la force de transformer les choses que l'on peut transformer et avoir l'humilité d'accepter pour un temps ce que l'on ne peut changer. Le drame, c'est qu'il y a une rupture de dialogue de génération en Afrique. Mais encore une fois, je déteste dire Afrique francophone. Malheureusement, les faits sont là pour nous prouver que ces cloisons-là existent et perdurent. Combien d'Africains, combien de chefs d'État d'Afrique centrale, d'Afrique australe, d'Afrique de l'Est, voyez-vous venir en visite officielle en Afrique de l'Ouest et vice-versa? Alors nous sommes restés prisonniers de ces différences superficielles et trompeuses entre nous. Quand allons-nous enfin nous défaire de tout cela? Voilà le problème. Et voilà pourquoi aussi je disais tantôt que le vrai problème, le vrai handicap, c'est en nous. Ce n'est pas dans les autres, ce n'est pas la France. La France n'est pas pire que la Chine ou que la Turquie ou que n'importe quel autre pays qui viendrait en Afrique. Elle n'est pas pire que le Maroc même, qui est un pays nord-africain qui investit énormément aujourd'hui en Afrique pour ses propres intérêts, pas pour l'intérêt des pays autres. Il faut enfin que nous sortions de cette illusion et de cet enfantillage.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous, Ibrahim Makan au Sénégal, Ismaël Diallo à Atlanta, le shérif Keïta à Minneapolis. Merci de vos contributions. Merci également aux auditeurs. Merci à Michel Joseph qui a assuré la mise en onde. Eric Mandakiza vous souhaite une heureuse année chez vous. À la prochaine.